Radio G 101.5 FM.
The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day, I cut my throat.
Bon, bienvenue pour cette émission spéciale Star Wars. Attention, attention, émission qui va commencer d'une autre galaxie, depuis une galaxie très très lointaine. Mais c'était pas il y a bien longtemps, vous êtes bien en direct. Salut Anaïs.
Salut Adrien, salut tout le monde.
Alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui?
Eh ben, moi, je vais vous faire une petite chronique sur un Science et Vie Junior. Parce que c'est bien quand la science se mêle au cinéma. Quoi. Ouais. Donc voilà, il y a eu un petit Science et Vie exprès pour parler de Star Wars.
Super. Salut Seb.
Salut.
Alors, de quoi tu vas nous parler ce soir?
Je vais vous parler de celui dont on entend la musique actuellement.
Ah,
John Williams.
Super. Alors, on a un invité spécial, un auditeur. Salut Arthur. Tu veux... Bienvenue.
Merci.
Ah, de quoi tu vas nous parler ce soir?
Aujourd'hui, je vais vous présenter une BD qui s'appelle Dark Vador, le Seigneur des Sith.
Super. Donc dans la série de comics.
Oui.
On en parlera. Salut Olivier.
Salut.
Alors, de quoi tu vas nous parler ce soir, toi?
Ce soir, déjà, il n'y a pas de quiz.
Il m'avait coupé le micro.
Pardon,
il avait anticipé
la censure
est terrible. Mais c'est le côté obscur qui a pris le pouvoir là. Ouais. Comme à Platine.
Et ben justement, moi je vais vous parler d'une BD. C'est alors Dark Vador, puisqu'en fait avec Arthur, on s'est spécialisé dans les deux BD qui sont vraiment centrées sur Dark Vador. Donc moi c'est juste Dark Vador et Arthur sera.
Bon, moi je remarque quand même que vous préférez le côté obscur.
Eh oui. Ouais.
Mais il a.
Mais on aime tous finalement
les méchants.
Le côté obscur.
Ouais, mais en fait.
Oh. Ah, mais c'est vrai.
Alors en fait, on s'est rendu compte, c'est vrai que les films. C'est l'évolution des personnages du côté clair, du côté lumineux, et effectivement ils croisent de temps en temps le côté obscur, et en fait ces BD là permettent de savoir ce qui se passe tout le temps du côté obscur, et ils croisent de temps en temps le côté lumineux. C'est un bon complément en tout cas.
On va pouvoir y revenir. Alors je précise quand même pour nos auditeurs, Arthur donc est le fils de notre ami Olivier.
Et
donc c'est vraiment beau de voir la passation se faire. On a un jeune padawan aujourd'hui dans le studio, donc vraiment bienvenue à toi. On va commencer sans plus attendre avec une petite interview d'un des acteurs qui a fait donc les 9 films et qui va nous parler en direct de ce qu'il pense du nouveau
film. Est-ce qu'il va spoiler l'épisode 9?
Un acteur qui a fait les 9 films.
Ouais, donc j'ai réussi à choper une interview qui dure à peu près 22 secondes. Mais,
Alors est-ce que c'est l'acteur qui joue R2-D2?
Non,
c'est trop PO.
Vous allez voir. Donc par contre, il risque de balancer quelques spoils sur le nouveau film. On va voir.
Non, R2-D2, il est pas dans tous les films.
C'est Chewbacca.
Vous voulez que vous traduise ou pas?
Ouais, vas-y, tu peux faire le temps.
Donc à la fin de l'épisode 9.
Certain.
Ouais.
Alors heureusement, on a les sous-titres.
Exactement.
Alors j'ai vu l'autre jour à la télévision qu'Alain Chabat fait très très bien Chewbacca.
Ah.
Il imite très bien Chewbacca.
Ah, bon.
Alors de temps en temps, certaines personnes au matin parlent un peu le Chewbacca.
Ouais, ouais, le matin, ça arrive souvent. Anaïs, on le dira pas, mais ça vient souvent. Alors, petite émission spéciale Star Wars. Donc, pour commencer dans la bonne humeur, on va vous faire un petit rappel de ce que c'est que Star Wars. Alors, Star Wars, en deux mots, pour ceux qui éventuellement n'auraient pas encore franchi les quelques années-lumière qui nous séparent de la galaxie de Star Wars, en deux mots, c'est une histoire de guerre galactique saupoudrée de chevaliers et de princesses sur fond de lutte du bien contre le mal. C'est donc ce qu'on appelle un space opéra. Celui qui a renouvelé ce genre un peu cliché à l'époque en y intégrant des personnages bien plus complexes et une vision de l'univers plus nuancée, donc c'est le génialissime George Lucas. Et là où il est très très fort, le George, c'est que dès le départ, il avait imaginé pas moins de 9 films découpés en 3 trilogies. Et oui, ça va nous faire des bonnes journées de marathon cinématographique. On n'est pas encore endormi. Attention, et c'est là que ça se complique. Il y a d'abord une première trilogie qui est sortie entre 1977 et 1983, puis une seconde entre 1999 et 2005, qu'on appelle donc la prélogie, puisque l'histoire qu'elle raconte se déroule avant les événements de la première trilogie.
Oh, c'est compliqué.
Heureusement qu'il y a des numéros aux épisodes.
Bah, c'est ça. Et enfin, la dernière trilogie, qui est la suite de la première trilogie, sortie en 77, a donc débuté en 2015 et se termine aujourd'hui, 18 décembre 2019, date historique, avec la sortie du tout dernier film de cette saga, Star Wars The Rise of Skywalker. Si je suis excité comme un gamin, moi, c'est parce que vous vous rendez-vous compte, c'est la fin d'une épopée cinématographique débutée il y a plus de 40 ans et qui a révolutionné le genre, les techniques d'effets spéciaux et créé de nombreuses icônes de la pop culture.
Il y aura des spin-offs.
Mais oui,
il y
en
a déjà eu.
On va en venir.
Et qui a décoré à peu près toute la maison.
À peu près. Star Wars, ça raconte quoi? Alors, pour la faire courte, hein, la première trilogie, c'est l'histoire d'un coup d'état du machiavélique sénateur Palpatine qui renverse l'ordre établi en remplaçant une république pacifique appelée la République Galactique par un empire tyrannique appelé l'Empire. Oui, je sais, c'est bien trouvé. Hein. Et dont il sera bien évidemment l'empereur. Dans les trois premiers épisodes, la prélogie, nous suivrons aussi le destin d'Anakin Skywalker, un jeune garçon plutôt très doué pour le pilotage, qui suivra une formation de chevalier Jedi et qui tombera amoureux de la reine Padmé Amidala. Et là, ça sent le héros.
Nathalie Portman.
On le comprend en même temps. Ça sent le héros là qui va sauver la galaxie, me direz-vous. Alors oui, mais non. Mais oui. Alors, il va lui. Donc il va aussi se faire manipuler par l'empereur Palpatine qui va jouer sur sa peur de voir mourir son grand amour. Il va devenir donc l'apprenti de l'empereur, passer du côté obscur de la force, tuer ses anciens alliés, y compris les enfants, et faire régner la terreur sous un nouveau nom, Darth Vader. Et donc cela, c'est terrible, il n'y a plus personne pour s'opposer à l'empire et ramener la paix dans l'univers alors. Mais rassurez-vous, il faut attendre simplement 20 ans et la deuxième trilogie, qui est en fait la première qui est sortie, pour voir l'Alliance Rebelle renverser l'Empire et détruire par deux fois l'Étoile de la Mort. Au passage, c'est pas une lune. Hein.
Non, c'est une étoile.
Voilà. Donc, on a une petite pensée pour la planète Alderaan, pour Jedha City et pour Scarif. Hein. Alors, qui doit-on féliciter pour avoir réussi à vaincre l'Empire? Alors, ils sont plutôt nombreux, mais si vous deviez n'en retenir que deux, il y a la chef des rebelles, la princesse Leia Organa, et le nouveau héros de cette trilogie, donc Luke Skywalker, qui est un fermier devenu chevalier Jedi. Et oui, il a le même nom que l'autre méchant d'avant, qui s'est changé en Dark Vador. Eh bien, c'est normal, puisque, attention, méga spoiler, c'est son... voilà. Oui, donc ça aussi, ça lui a fait bizarre quand il l'a appris, hein, il en a perdu la main. Donc l'Empire est détruit, la paix est revenue dans toute la galaxie. Eh bien non, malheureusement, dans la troisième trilogie qui se passe 30 ans après, Luke Skywalker a disparu et avec lui l'espoir d'une paix durable. Une nouvelle organisation du mal appelée le Premier Ordre est dirigée par le suprême leader Snoke et son apprenti Kylo Ren, on ne déforme pas son prénom s'il vous plaît, sème la terreur dans tout l'univers. L'espoir naît alors d'une jeune femme qui s'appelle Rey, et pas Odile de Rey.
Odile.
Rey, qui n'a pas de sœur, donc, rejoint la résistance dirigée par la générale Leia Organa. Elle retrouve Luke Skywalker sur une île avec des porgs, et elle développe ses pouvoirs de Jedi qui, on l'espère, lui permettront de vaincre le puissant Kylo Ren, qui, au passage, lui, a pris le pouvoir en tuant son mentor, le suprême leader Snoke. Et donc, on a hâte de connaître la suite. La question subsidiaire dans la salle, et pour chers auditeurs, qui a déjà voulu être un Jedi par ici? Ou un...
Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'auto-école Jedi.
Pas facile. Mais alors, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma quand j'étais petit, c'était Le Retour du Jedi.
Ah bah voilà.
Donc bon, j'étais un peu influencé quand même.
Ouais.
Premier film
au cinéma.
Ouais, par contre, tu m'excuseras, mais je doute que tu sois assez sage pour maîtriser la force. Hein.
Ça c'est clair.
Alors,
je suis sûr de tomber du côté obscur.
Voilà. Alors, figurez-vous que dans la Star Wars, la notion de force, hein, c'est bien plus que de la musculation. Voyez-vous, c'est une énergie présente dans chaque être vivant de l'univers et qui, une fois domptée et comprise, grâce au très controversé midi-chlorien, offre des pouvoirs psychiques puissants tels que la télékinésie, la télépathie ou la maîtrise du fameux sabre laser. Alors, si vous allez me dire c'est pratique pour conquérir le monde, mais non. Parce que là, on tombe directement dans le côté obscur, n'est-ce pas, Seb? Le côté obscur, c'est la partie sombre de vous-même, la peur, la haine, l'agressivité ou l'ambition mégalomane.
C'est vrai que la peur conduit du côté obscur.
Mais oui, d'ailleurs, c'est Yoda qui nous en parle le mieux.
Mm-hmm. Tout à fait.
La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance.
Merci Yoda.
Quel grand sage ce Yoda.
Ouais, vous avez vu ça? Il était dans le studio en plus.
Il est derrière le bureau mais on le voit pas.
Ouais.
Mais non, il est tout petit.
Alors du coup, la différence entre le côté obscur et le côté lumineux, c'est bien justement le fait que les Jedi, les maîtres Jedi n'utilisent la force que pour défendre le bien. Donc les gros méchants, ceux qu'on appelle les Sith, et les maîtres Jedi, ce sont donc les gentils. Bon alors, c'est pas vraiment aussi simple, mais pour y voir plus clair, on va faire deux équipes, hein, pour que vous compreniez bien qui sont les gentils, qui sont les méchants dans toute la saga. Pardon. Dans l'équipe des gentils. Pardon.
Parce que les gentils, ils ont des petites voix.
Voilà. Exactement. Donc dans l'équipe des gentils, il y a les membres de la République Galactique, ceux de l'Alliance Rebelle, de la Résistance, les Jedi et les remplaçants. Mais souvenez-vous, je vous avais dit qu'Anakin Skywalker avait changé d'équipe à la mi-temps. Alors on peut même dire qu'il est devenu le capitaine de l'équipe des méchants. Et ça s'est pas fait sans douleur. Hein. Donc on retrouve donc cette équipe dans les seigneurs Sith, les membres de l'Empire, ceux du Premier Ordre, ainsi que les chasseurs de primes et les gangsters. Ça en fait du méchant. Oui. Ça nous fait une sacrée photo de famille. Mais d'ailleurs, la famille, c'est important dans Star Wars. Alors, je vous fais un bref récapitulatif. Est-ce que, Steb, tu peux nous dire simplement qui est Anakin Skywalker, à la base?
Anakin Skywalker? C'est le père de Luke Skywalker.
Mais c'est pas vrai.
Si. Ouais. Anakin, et c'est celui qui devient...
Dark Vador. Et voilà, celui qui va devenir Dark Vador s'est marié avec la reine Amidala, et de leur union va naître la princesse Leia Organa, du nom du sénateur Organa qui l'a recueilli, et son frère jumeau Luke Skywalker. Alors jusque là, accrochez-vous, c'est assez simple, mais la princesse Leia, elle, va tomber amoureuse d'un pilote intrépide du nom de
Han Solo,
le gentil vaurien. Ils vont avoir ce petit échange, vous allez voir, mythique, dans l'Empire contre-attaque.
I love you, I know.
Où on avait effectivement donc Harrison Ford qui avait dit cette petite phrase qui n'était pas prévue au script.
C'est terrible, prévu. Je m'en souvenais pas.
C'est très célèbre ça.
Ouais, ça fait partie de la
du mythe.
C'est gentil, je t'amasse.
Alors, Leia lui retourne le compliment dans le Retour du Jedi. Hein. Donc, Han Solo, qui est un ami du frère, donc Luke Skywalker, il traîne toujours avec un grand poilu, Chewbacca. Voilà, il est dans le studio aussi. Donc, Han et Leia vont avoir un fils, Ben Solo, plus connu, sous le nom de Kylo Ren, puisque lui aussi est passé du côté obscur de la Force, comme Papy Vador.
Il est très très obscur.
Ouais, il est très très. On met beaucoup de monde dedans. Dans Star Wars, il y a aussi des liens très forts entre maître et apprenti pour transmettre la maîtrise de la Force, et qui comptent énormément pour la compréhension de l'histoire. Alors, Obi-Wan Kenobi, vous allez vous souvenir ?
Ah, ben oui.
Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. Et oui, Obi-Wan Kenobi qui a été le maître d'Anakin puis de Luke avant de se laisser tuer par Dark Vador, qui était devenu donc le disciple de l'empereur Palpatine, alias Dark
Sidious.
Voilà. Vous êtes bien sur Bangeek Mafia et pas sur Voici.
Luke Skywalker a continué donc sa formation suivant les conseils de Maître Yoda, un Gremlins vert avec la tête d'Albert Einstein. Et c'est vrai, ils ont fait la marionnette à partir de la tête d'Albert Einstein. Est-ce que vous suivez toujours là où je vais trop vite ?
Ça va.
Donc j'ai presque fini, je vous rassure. Ben Solo, le fils de la princesse Leia et de Han Solo, a lui été formé par son oncle, Luke Skywalker, avant de passer du côté obscur pour devenir Kylo Ren sous la tutelle du Supreme Leader Snoke. Vous savez, le méchant qui a un nez de rugbyman.
Et puis il est vraiment moche.
Ouais, il est vraiment moche. Il doit avoir des grosses difficultés pour se moucher. Et enfin, parlons de la petite dernière, Rey, qui n'est pas Odile, qui a été formée par Luke Skywalker, de parents pour le moment inconnus, mais qui a un lien très très fort avec la Force, et sur qui tous nos espoirs reposent. Surtout que le dernier épisode annonce le grand retour de l'empereur Palpatine, qui aurait survécu, on ne sait trop comment, à l'explosion de la seconde étoile de la mort. Je vous dis ça parce que le nom de l'acteur est au générique. Alors ça risque, le prochain film, d'être un sacré film, pour meilleur et pour le pire, mais bien plus que ça. Rendez-vous compte, ce sera pas seulement le dénouement de la trilogie, mais bien l'ultime épisode de toute la saga, et ce sera l'occasion de voir une dernière fois au cinéma la très regrettée Carrie Fisher dans le rôle de Leia, 42 ans après le tout premier film. Alors on va enfin savoir comment ça se termine. Est-ce que la résistance va gagner cette bataille épique pour la liberté ? Rey va-t-elle résister à l'appel du côté obscur ? Et que nous réserve l'alliance maléfique entre Kylo Ren et l'Empereur ? Vont-ils d'ailleurs même seulement s'allier ? En attendant, may the force be with you.
Waouh, merci.
Moi j'ai très très peur du scénario de l'épisode 9. Je vous le cache pas. Hein. Je pense que ça va être génial au niveau effets spéciaux, mais au niveau du scénario, j'ai très peur.
Alors j'ai lu une critique rapidement sur d'un média assez connu qui disait qu'il y avait énormément de rebondissements, de retournements de situation un peu dans tout le.
Qui était trop même.
Mais j'ai juste lu le titre. Ouais. J'avoue que j'ai pas été voir parce que j'ai envie de me garder un peu de surprise aussi.
La controverse fait partie de Star Wars depuis la sortie de la Menace Fantôme en 1999. Et je vais vous passer un morceau de musique chanté par un personnage relativement controversé. Donc je vous laisse apprécier.
C'est le personnage le plus agaçant de Star Wars.
Et voilà. Vous êtes bien sur Bonne Geek Mafia sur Radio G, et Star Wars c'est ce soir.
I expect the ability to speak does not make you intelligent. I get out of here.
No, this is it.
Mystical Jaja Beats.
Jaja Beats.
Mystical, your humble servant.
Jaja
Beats.
Jaja
Beats.
Oh,
boy, I love you.
Jaja
Beats.
Mystical
Jaja Beats.
Excuse me, excuse me.
The safest link with the dog, the city is where I grew up.
Jaja
Beats,
Jaja
Beats,
Jaja
Beats,
Jaja
Misa.
Misa Jar Jar Binks. Et on est toujours bien sur Bande Geek Mafia pour cette émission spéciale Star Wars. Alors je vais garder un petit peu le potard, mais je vais faire participer tout le monde, y compris les auditeurs. Réfléchissez bien. Si vous êtes jeune parent, si au contraire vous avez vu le premier film en 1977, si vous êtes un ado ou un enfant qui se demande par quel bout prendre Star Wars, et bien on va parler chronologie aujourd'hui.
Ouais. Alors en tant qu'historien.
Alors la saga va se conclure donc ce soir avec l'ascension de Skywalker en français, The Rise of Skywalker. Donc c'est donc le moment ou jamais pour se lancer dans son ultime marathon, histoire de bien se rappeler que la force est avec nous. Mais il vaut mieux suivre une chronologie bien particulière. Alors a priori ça pourrait être simple, chaque film Star Wars porte désormais le numéro d'un épisode et en théorie il suffirait donc de les visionner du 1 au 9, du 1 au 8 afin d'être prêt pour le 9. Oui mais non, parce que c'est loin d'être aussi simple que de détruire l'étoile noire et on va vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, mettons-nous à la place de quelqu'un qui n'a jamais vu Star Wars. Ça doit bien exister quelque part dans l'univers.
Ça existe.
Oui.
Ça existe.
Ouais, c'est comme quoi personne n'est parfait.
C'est
hein.
Triste, mais ça existe.
En commençant la prélogie, il ou elle n'aura jamais le choc, le plaisir de découvrir ce personnage et le parent de ce personnage dans cette fameuse scène de l'Empire contre-attaque. Oui, on ne cite pas les noms, mais on ne veut pas tout gâcher avec des spoilers hein, pour quelqu'un qui n'aurait pas encore vu ces films cultes.
On ne veut pas divulgâcher.
Voilà, on ne va pas divulgâcher. Quelqu'un qui n'aurait pas vu les épisodes les plus anciens, les 4, 5 et 6, ne pourrait pas non plus comprendre qui est ce personnage à la fin du Retour du Jedi aux côtés des fantômes de Maître Yoda et Obi-Wan Kenobi, puisque l'acteur original a été remplacé suite au tournage de la prélogie. Alors vous voyez, c'est plus compliqué que prévu. Alors moi je vous propose de faire un petit tour de table sur, d'après vous, comment est-ce qu'on pourrait voir, dans quelle ordre on pourrait voir entre le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8.
Ça
et on verra ensuite comment on intègre les spin-offs et le reste.
Moi je pense que ça dépend de l'âge.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais.
Enfin, moi pour moi, il faut commencer par l'épisode 4. Mais parce que c'est de ma génération. Mais je pense que par exemple, pour Anaïs, il vaut mieux démarrer par le premier épisode.
Alors vas-y Anaïs.
Ouais, et en même, je suis d'accord avec toi. Et en même temps, moi j'aime assez le fait de respecter l'ordre de la création. Quoi. Ouais. On a pensé au départ qu'il était plus intéressant de sortir le 4. Après, bon, c'était aussi pour des contraintes techniques.
Ouais.
On n'a pas fait la prélogie.
Et contre technique et financière.
Oui.
Il n'avait pas l'argent pour tout faire.
C'était un petit budget hein, ouais. Le premier film.
Ah oui, hein,
c'était conçu comme une série B.
D'ailleurs, personne pensait que ce serait un succès. Enfin, tout le monde imaginait que ce serait un four total.
Quoi.
Et même George Lucas. Hein.
Bah pour lui, c'était un pialé après THX 138.
Le jour où Star Wars est sorti aux États-Unis, il est parti en vacances à Hawaï.
Ah oui,
il était sûr que ce serait un échec.
C'était tellement pas prévu qu'ils ont même pas pris un bon traducteur parce que la guerre des étoiles.
Ah oui, ça c'est en France, c'est la chose.
Bah d'ailleurs, à l'époque, pour la petite parenthèse, en France, hein, c'était Chewbacca, c'était le chic tabac.
Ouais.
C'était pas le Faucon Millennium, c'était le Millennium Condor.
Ouais. Et c'était pas C3PO, c'était Z6PO.
Et d'ailleurs, Luc a failli s'appeler Luc Marcheciel.
Non.
Si. C'était un stagiaire.
Alors moi j'ai envie de poser la question à notre petit padawan. Vos que pas si petit d'ailleurs en vrai. Par quoi est-ce que t'as commencé toi Star Wars?
Moi j'ai commencé par le 1, ensuite le 2, le 3, le 4, bah je les ai tous fait dans l'ordre.
1, 2, 3, 4, 5, la chronologie.
La chronologie.
D'accord.
Moi je m'interroge, est-ce qu'on peut commencer la génération actuelle là, qui n'a pas connu non plus les épisodes 1, 2, 3 hein, au moment de leur sortie. Est-ce qu'ils peuvent commencer par les 7, 8, 9 hein.
Alors d'après toi Arthur?
Bah moi je vais demander surtout à mes amis et la plupart d'entre eux, pour eux les plus importants c'est le 1, le 2 et le 3 parce que pour eux c'est vraiment que là comment Star Wars.
Ouais. Ok, c'est là que commence Star Wars. Ok, et toi Olivier?
Alors bah moi j'ai commencé par le 4 et le 5 et le 6 et alors moi j'ai trouvé en fait c'était vraiment bien pour nous. On a commencé par une histoire et surtout avec le 1, 2, 3 on a eu peut-être un peu moins d'histoire, mais effectivement des effets spéciaux absolument magnifiques. Donc on a commencé par une histoire, après on a eu la continuité de l'histoire avec des effets spéciaux. Malheureusement le 7 et le 8 j'ai eu des effets spéciaux sans histoire. Tout au moins j'étais un peu déçu, mais le voir 4, 5, 6 ou 1, 2, 3, bah effectivement moi je pense que ça... C'est pas le même regard, mais ça a tout autant de sens.
C'est amusant ce que tu dis, Olivier, parce que quand le premier Star Wars est sorti, il avait été remarqué pour la maîtrise de ses effets spéciaux.
Ouais, bah ouais, ouais complètement.
C'est drôle.
Ouais, c'est ça, ouais.
Non, par contre, moi j'ai eu énormément de mal avec les derniers épisodes et j'arrive pas à savoir pourquoi. Il y a un truc qui colle, qui marche pas.
On va en reparler, Arthur.
Moi je pense c'est qu'en fait il n'y a plus vraiment l'esprit du Jedi, il n'y a pas vraiment les combats laser, tout ce qui est sabre, etc. Parce
ouais.
que nous c'est vraiment ce qui me manque, moi en tout cas.
Si du coup du tac au tac là, Arthur, tu devais nous donner un combat au sabre laser mémorable dont tu te souviens, ce serait lequel?
Obi-Wan Kenobi contre Anakin Skywalker.
Ah ouais, forcément. Et alors pour la petite histoire, c'est le seul combat de toute l'histoire du cinéma, c'est le combat à l'épée le plus long de toute l'histoire du cinéma. 17 minutes de combat à l'épée. Vous rendez-vous compte là, l'entraînement qu'il a fallu aux deux acteurs pour gérer la chorégraphie hein. C'est phénoménal. C'est le plus long duel
c'est sûr.
De l'histoire du cinéma. tout cinéma, Hollywood, Bollywood compris. Hein.
Et alors, ce qui est bien aussi dans la saga Star Wars, au-delà de la chronologie, c'est qu'on peut les regarder individuellement, en fait. Ouais. On peut regarder chaque épisode individuellement, on n'est pas obligé de regarder tous les épisodes.
Ça marche aussi.
Et mon épisode préféré, si vous voulez le savoir, c'est L'Empire contre-attaque.
Ouais,
L'Empire contre-attaque, sur Sens Critique et sur beaucoup d'autres sites, hein, ressort comme étant le plus abouti, alors qu'à la sortie, c'était pas forcément celui-là. Hein. À la sortie, il a été pas mal décrié, notamment par les fans. Il a été applaudi par la critique
avec le temps, finalement.
C'est ça.
Et puis sur épisode 5.
Et c'est quand même rare parce qu'effectivement, on a commencé par le 4 et on avait une suite qui était de meilleure qualité. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles Star Wars aussi ça marchait. Combien de séries ont eu leur deuxième épisode qui était aussi bien, voire même meilleur que le premier? Il n'y en a pas souvent.
En effet. Alors, je peux vous proposer, si vous voulez, un petit classement selon qui vous êtes. Alors, pour les Padawan qui n'ont jamais vu, jamais Star Wars, vous pouvez faire 4-5, 1-2-3, 6-7-8.
Oui, je suis d'accord.
Parce que 4-5, on vous pose le décor. Vous découvrez Star Wars comme tout le monde a découvert Star Wars. Flashback après l'Empire contre-attaque, vous avez eu une révélation phénoménale pendant l'Empire contre-attaque, on dira pas quoi. Et vous avez un flashback des trois premiers épisodes, la menace fantôme, l'attaque des clones et la revanche des Sith. Après avoir épuisé finalement l'histoire de comment on en est arrivé là, on a la résolution de ces deux premières trilogies avec le retour du Jedi. Et la suite avec les nouveaux héros, donc le réveil de la Force, les derniers Jedi et le film qui sort ce soir. On peut avoir aussi pour les Jedi. Là, on n'est plus au stade Padawan, on arrive aux Jedi qui ont déjà vu Star Wars. Là, vous pouvez, comme vous et moi, si on a tout vu, tout fait, on se fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 à partir de demain. Voilà, là, ça nous fait une bonne petite nuit. C'est un petit peu comme Le Seigneur des Anneaux, version longue, 12 heures de film. Ouais. Mais c'est toujours sympa. On peut aussi respecter l'ordre de sortie selon notre affinité particulière, ce que tu disais, Seb. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Pour les droïdes qui veulent tout connaître de Star Wars, alors on peut faire la version longue. Hein. Star Wars épisode 1, épisode 2, épisode 3. Ensuite, on va regarder Solo, Star Wars Story. Ensuite, Rogue One. Ensuite, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 8, 9.
C'est vrai.
Et ouais. Alors pour les
stormtroopers. Et l'attaque des pas l'attaque des clones.
Non,
The Clone Wars.
Ah bah attends, je vais y venir. Alors, on a les fous là. Alors avant ça, il y a pour les stormtroopers grincheux qui trouvent que c'était mieux avant. On peut faire juste le 4 et le 5.
Ouais, c'est vrai. Ou le 5 et le 6.
Ouais, éventuellement. Ouais, pour les Sith, ceux qui sont passés, ceux qui veulent juste voir les méchants triompher, hein, peuvent également y trouver leur compte. Vous regardez simplement le 3, le 5, le 7 et le 8. Parce qu'à la fin de ces films, ce sont bien les méchants qui l'emportent. Et avec les héros de la trilogie originelle, en bien mauvaise posture, hein, ou pire encore des fois. Donc en revanche, la revanche des Sith est largement considérée comme le moins pire des épisodes de la prélogie, tandis que l'Empire contre-attaque, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Seb, c'est régulièrement cité comme le tout meilleur Star Wars de l'histoire.
C'est sûr.
En même temps, avec Irvin Keschner à l'époque, c'était quand même sacrément bon. Pour finir, une petite anecdote qui résume bien tout le bazar pour s'y retrouver dans la chronologie Star Wars. Est-ce que vous saviez qu'avant de tourner dans Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir, Mark Hamill n'avait jamais vu un film Star Wars?
c'est logique.
Voilà, c'était la petite blague.
L'ampleur de mathématiciens, voilà. Quand même.
Exactement.
Avec 1, 2, 3, 5 et 7, les nombres premiers, et puis après derrière.
Ah bah voilà.
On a trouvé une autre chronologie.
Alors pour les fous furieux, ou les fans, hein, ça peut s'appeler comme ça aussi.
Mais c'est la même chose.
Voilà, fanatique. On peut regarder donc l'épisode 1, suivi de l'épisode 2. Ensuite, on intègre la série, l'excellente, mais vraiment excellente sur le point de vue scénaristique et de l'histoire, série The Clone Wars, la série animée.
C'est génial. Hein.
Ensuite, puisque c'est là qu'on apprend notamment que Anakin Skywalker a eu une apprentie du nom de Ahsoka Tano, qui va être très importante pour la suite. On regarde l'épisode 3. Ensuite, on a le film Solo, la série à venir Obi-Wan Kenobi. On a après la série animée Star Wars Rebels, qui intervient juste avant Rogue One, qui intervient juste avant la série Star Wars Cassian Andor qui va sortir juste avant le film, l'épisode 4 Star Wars The New Hope. Ensuite on a l'Empire Contre-Attaque. Vient ensuite le Retour du Jedi, la série actuelle qui est absolument géniale, on en reparlera, The Mandalorian. On a pour le moment un petit trou qui est couvert par les comics. On arrive au Star Wars Le Réveil de la Force. On a la série ensuite animée Star Wars Resistance. Après on a Star Wars The Last Jedi. On a ensuite Star Wars Galaxy's Edge, puisqu'ils ont intégré au canon le fait d'aller dans les parcs américains.
Je suis une overdose de Star Wars.
Et pour terminer, Star Wars The Rise of Skywalker ce soir. Voilà, on a de quoi tenir à peu près une semaine non-stop sans dormir.
Vous pourrez télécharger ça sur 53 pages sur le site, voilà. En PDF.
Tout ça pour dire, avec cette overdose de mots Star Wars prononcés, je pense que j'y arriverai plus après ce soir, on pointe un petit peu le fait aussi que France Star Wars, avant d'être une saga, ou maintenant depuis que c'est une saga, c'est aussi une franchise. Alors je vous propose un petit morceau qui va nous parler un petit peu de tout ça, et après on va parler de l'univers étendu, et je vais laisser la parole après à Arthur et Olivier qui nous parleront des comics Dark Vador. C'est parti pour Everyone Likes Star Wars sur Radio G 101.5.
La radio des Padawan.
Like Star Wars, and they're gonna make more money. 'Cause everyone likes Star Wars, and Star Wars makes lots of money. Even though they already made Star Wars, they are gonna make more money from Star Wars.
Star Wars, and Star Wars makes lots of money. Everyone likes Star Wars, and they're gonna make more.
C'était Everyone Likes Star Wars sur Radio G. Alors, on a une petite question d'un auditeur du nom de Pierre Jacob. Alors, après l'Opus 9, y en aura-t-il un autre ou est-ce que c'est vraiment la fin?
Je suis sûr qu'il y en aura un autre.
Mais ouais, malheureusement, je pense qu'il y en aura d'autres.
Alors, ou des histoires des parallèles, comme ouais, Han Solo.
Des spin-offs, ouais. Effectivement, donc c'est probable. Alors, on a plusieurs auditeurs hein, qui se sont signalés pour dire qu'ils écoutaient, qu'ils étaient fans de l'émission. Donc, un petit bonjour à Paul.
Salut.
Salut Paul. Un bonjour à mon fils Arthur.
Coucou Arthur.
Salut.
Un bonjour à Pierre aussi qui nous écoute. Un autre bonjour à Gagounet hein, à qui on pense très très fort. Grand fan de Star Wars, Gagounet, si tu nous écoutes, voilà. Alors on va continuer avec donc l'univers étendu hein, avec les comics. Oui. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, Arthur?
Oui. Le nom de la BD, c'est Dark Vador, le Seigneur des Sith. C'est une BD en 3 volumes dans l'univers de Star Wars, mais entièrement centrée sur Dark Vador. L'action se déroule entre le film 3 et 4. Volume 1, Anakin Skywalker appartient au passé. En se tournant vers le côté obscur de la Force, l'ancien Jedi a disparu et il est devenu Dark Vador, le puissant vassal de Palpatine. L'Empereur lui confie alors sa première mission, obtenir son propre sabre laser. Dans cet épisode, vous pourrez enfin répondre à une des questions que vous vous êtes sûrement posées. Pourquoi les Jedi et les Sith ont des sabres laser de couleurs différentes?
Ah oui, pourquoi?
Ah oui, mais on va pas te donner la réponse, on va pas lire.
On a envie de savoir maintenant.
Dans le volume 2 et 3, Palpatine règne désormais en maître sur la galaxie. À ses côtés, Dark Vador fera son possible pour devenir une pièce essentielle et craint de l'Empire, bien que les gradés le détestent. De plus, il devra diriger des inquisiteurs qu'il méprise, et il devra aussi traquer les derniers Jedi. On y voit les relations entre Palpatine et Dark Vador, entre respect, trahison et méfiance. On ne peut se faire confiance dans le côté obscur de la Force. Le volume 4 que je n'ai pas lu, La Forteresse de Vador, est sorti le 6 novembre 2019. C'est le récit de la construction de la citadelle de Dark Vador. Depuis sa renaissance dans la lave de Mustafar, le seigneur noir des Sith sait à quel point le côté obscur est puissant sur cette planète. Et pour obtenir le pouvoir qu'il désire, il est prêt à terrasser tous ceux qui se mettront en travers de sa route. Personnellement, j'adorais cette BD, magnifique dans les dessins et surtout dans l'histoire autour du personnage le plus symbolique de cette série, Dark Vador.
Exactement. Super chronique, merci Arthur.
Merci Arthur. Merci.
Qu'est-ce qui t'attire toi dans le fait? Est-ce que ça t'attire vraiment le fait d'aller voir des comics et tout pour avoir des, ou d'autres?
Ah oui, parce que ça, en fait, ça raconte une histoire, mais qu'on la voit pas dans les films. Comme tout à l'heure, Olivier a pu le dire, c'est surtout centré sur le côté lumineux, et pendant que là, c'est vraiment le côté obscur. Et ouais. On voit qu'en fait, il y a aussi des histoires parallèles à Star Wars qu'on connaît nous.
Ouais, exactement. D'ailleurs, j'ai pas mentionné tout à l'heure dans la chronologie, mais on risque d'avoir une série qui s'appelle Docteur Aphra, qui est une Indiana Jones hein, dont on parlera.
Ouais.
Olivier, qu'est-ce que t'as, il me semble que t'as lu aussi quelques comics. Alors, hein, donc sous la direction de ton fils, je suppose.
C'est hein, ça. On s'est répartis. Donc effectivement, j'ai pris aussi le BD. Alors il y a quatre autres BD pardon sur Dark Vador. Cette fois, alors donc l'action elle se déroule entre l'épisode 4 et 5. Alors, l'étoile noire a été détruite, et mettant le seigneur Dark Vador dans une situation compliquée vis-à-vis de Palpatine. Alors, suite à cet échec, il se rend sur Saïmoun 1 pour débuter les négociations avec les émissaires du Hutt. Et Dark Vador arrive au même moment qu'une attaque rebelle se produit, et ces derniers visent la destruction de l'usine d'armement. L'empereur refuse ce second échec consécutif, et il choisit alors Taj et le place au rang supérieur de Dark Vador, qui congédie ce dernier sans attendre. Et donc, il sollicite, Dark Vador se rend directement sur Saïmoun et il sollicite des chasseurs de prime afin de retrouver un vaisseau qui s'appelle le Faucon Millennium et aussi un jeune guerrier qui s'oppose à lui sans cesse.
Ouais.
Et en fait, alors effectivement, on découvre aussi de nouveaux personnages comme le professeur Aphra aussi, ouais, qui devient malgré elle l'allié de Dark Vador et qui évolue dans le dos de l'empereur Palpatine. Mais surtout, ce que j'aime bien dans ces BD, c'est qu'on trouve les liens de défiance entre un Dark Vador qui place la force au-dessus de tout et qui refuse d'être placé comme inférieur avec des simples mortels et son maître qui cherche plus à asseoir son pouvoir sur une armée soumise. Et c'est vraiment conflictuel, c'est tout le temps lancinant à l'intérieur et c'est vraiment super. Ouais. Et j'ai trouvé alors un graphisme encore superbe, une histoire bien ficelée qui rend la lecture de ces BD qui est captivante. Et c'est aussi effectivement un très bon complément pour les films. Donc un très bon cadeau à la limite si vous savez pas quoi
si
offrir.
Si Noël a des doutes encore.
Là vous avez des histoires super.
C'est la période.
Et donc effectivement les films, je pense qu'on voit le côté lumineux de la force et toutes les BD ont c'est l'évolution du côté obscur de la force et la complexité du personnage de Vador. Ouais. Vraiment superbe. En tout cas.
À noter qu'il y a donc c'est aux éditions Panini Comics.
Oui.
Et en fait pour replacer au global dans toute la saga, on a des séries de BD qui doublent le film, c'est-à-dire où on va voir un comics par exemple Star Wars The New Hope, l'épisode 4, qui va en fait nous donner des informations supplémentaires sur le déroulement du film en nous remontrant le déroulement du film autrement. Et on va également avoir donc tout ce qui s'intercale entre tous les films, et depuis le tout premier La Menace Fantôme jusqu'à actuellement la série actuelle. On va avoir des personnages un petit peu sous-développés dans les films comme le Capitaine Phasma par exemple, qui va avoir un énorme arc narratif, pareil pour Poe Dameron, pour les nouveaux héros. Et on va avoir notamment sur Luke Skywalker, on va avoir aussi une série de BD qui va nous expliquer vraiment comment réellement il est devenu un Jedi, puisque ça s'est pas fait si facilement que ça, et ça s'est pas fait aussi rapidement que les films puis le laissent à supposer.
Et puis en plus on trouve des compléments qui permettent de justifier, par exemple moi je comprenais jamais que Dark Vador, qui était l'adjoint de Palpatine et son puisse être placé en dessous d'un humain, d'un général, et effectivement les BD l'expliquent, et c'est vraiment bien.
C'est ça. Alors, petite transition pour laisser la place à parler.
Motion Slay.
Alors, n'hésitez pas, tu vas nous parler.
Moi, je vais vous parler rapidement de ce Science et Vie Junior qui est sorti au mois de... Bah, c'est le numéro de janvier 2020, donc le numéro 139, hein, hors-série.
On exclut dans le monde du Mafia.
Et donc, c'est Star Wars, que la science soit avec vous. Et j'ai trouvé ça assez sympa parce qu'il développe plein de sujets pour mieux comprendre l'univers et pour le relier au côté scientifique. Est-ce que certains voyages sont possibles? Est-ce que
Un sabre laser, c'est possible?
Voilà, ouais. C'est ça. Et donc, du coup, on a pas mal de petits articles hyper sympa à lire, par exemple sur les décors.
Ouais.
Où est-ce qu'a été tourné certaines scènes, certaines planètes, d'où viennent ces décors. Donc on apprend notamment que la lune d'Andorre, c'est Redwood aux États-Unis.
On va dire. Ah, je veux les doigts qui se lèvent dans le studio.
Hot. Alors je sais pas si c'est Hoth ou Hot.
Hot. La
planète Hot a été.
En Arctique.
En Norvège.
En Norvège. Ouais,
Naboo.
Naboo, c'est la ville de Séville en
Espagne.
Tout à fait,
très bien. On va voir si vous
êtes
bon.
Je vais pas donner toutes les
chances. Alors, Kashyyyk.
Alors, vous savez où c'est? C'est dans les forêts californiennes.
Non, pas du tout.
Bon alors
Guilin, en Chine.
Ah, bon, tant pour moi.
C'est là où il y a les Wookiees, c'est ça, hein.
Ouais,
on est d'accord.
Exactement.
Tatooine, hyper facile.
Ah, oui. Tatooine.
Voilà,
en Tunisie.
Oui. Le temple Jedi, là où on retrouve donc les nouveaux épisodes.
En Irlande.
Ah, je savais pas ça.
Les îles Skellig.
Ah oui, c'est les Skellig Islands, c'est au sud-ouest d'Irlande. Et on y accède avec un bateau qui ne fait que deux allers-retours dans la journée. C'est une petite barque qui n'embarque 15 personnes. Et il faut prendre des chaussures de rando, dit la brochure, hein, puisque
c'est bien
on risque de glisser. Je me suis renseigné, je veux y aller.
Mais voilà, donc on a cette petite partie là sur les décors. Il y a aussi, est-ce qu'on peut imaginer que les planètes qui sont évoquées dans la galaxie. Dans Star Wars peuvent exister. Est-ce qu'on peut retrouver des planètes qui sont proches? Donc voilà. On a aussi promenons-nous dans l'espace sur les méthodes de transport, le coaxium, le carburant miracle de Star Wars. Voilà, un questionnement là-dessus. La gravité. Voilà, C3PO est-il bon en statistique?
J'espère.
Je vous laisse.
C'est un bon traducteur en tout cas.
Ouais, il parle combien de formes de communication?
Je crois plus de 1000.
3 millions.
Oh là là,
3 millions.
6 millions de formes de communication.
C'est plus de 1000. Donc voilà,
il y a des
secrets de tournage. Il y a aussi des petites questions assez drôles. Combien faut-il de réacteurs nucléaires à l'étoile noire pour détruire une planète? Leia s'est-elle vraiment gelé les couettes dans le vide spatial?
En même temps, c'est logique.
Les canons laser, une menace complètement fantôme. Pourquoi les combats ressemblent-ils à ceux de 1940? Voilà, il y a des questions. On apprend plein de choses.
À chaque fois, je pense à Leia, je pense à l'épisode de Friends où Phoebe met deux pains au raisin sur ses côtés pour ressembler à la princesse Leia.
Donc voilà, il y a des questions de transport en commun. Pourquoi Luke et Leia devraient-ils porter des lunettes quand ils sont notamment dans la forêt justement qu'on évoquait avant?
Parce qu'il y a des moustiques.
Parce que sur les motojets, on va très très vite.
Et puis il y a un petit tuto. Ah, comment fabriquer votre droïde de protocole.
Exact, super.
Je n'ai pas lu en entier hein, tout ce protocole, mais voilà, c'est assez drôle.
C'est ludique. Tu nous fais pour la prochaine émission, hein, on veut voir le droïde.
Voilà. Il y a aussi des secrets de tournage, donc voilà, un hors-série assez complet sur l'univers de Star Wars que je vous conseille. C'est le Science et Vie Junior qui vient de sortir, le hors-série 139. Voilà.
Merci Anaïs.
Super, merci beaucoup Anaïs pour cette série. Alors je vous propose de vous repartir dans une galaxie lointaine avec un morceau qui s'appelle Jedi Jedi. C'est une parodie de morceau qui s'appelle Louis Louis.
Ah oui, Louis.
Ouais, vous allez voir.
Heureusement que c'est pas Voyage Voyage.
Jedi Jedi sur Radio G, sur Bonne Geek Mafia 101.5. C'était Jedi Jedi sur Band Geek Mafia. Alors attention pour la suite.
Oh yeah. Tiens, puisque j'entends du jazz, je voudrais saluer mon collègue Jean-Philippe.
Salut Jean-Philippe.
Salut. Et aussi Erwan.
Salut Erwan.
Salut Erwan. Alors Seb, de quoi tu vas nous parler?
Je vais vous parler de John Williams, le compositeur, le grand compositeur. Eh oui, vas-y. Parce que bon, à notre époque, on dit souvent que la musique classique, bon, c'est devenu un peu confidentiel. Hein, mais sauf qu'avec la saga Star Wars depuis 40 ans, eh bien, le genre a retrouvé une popularité inégalée grâce donc aux thèmes principaux très connus de John Williams. Parce que par exemple, si vous voulez briller en soirée et lancer une soirée, vous pouvez mettre par exemple le thème d'ouverture de Star Wars. Là, l'aventure commence. Attends. Et puis si vous avez envie de mettre une ambiance un peu plus sombre, là, vous allez mettre le thème de l'Empire. Ouais. Forcément, le compositeur américain, donc il a plus de 80 ans maintenant. Il est l'auteur de la musique des 7 Star Wars, hein, quand même. Et puis des bandes originales de nombreux films cultes, voilà. Nombreux films cultes. Indiana Jones, quand même. Mmh. E.T. Jurassic Park. Harry Potter, enfin voilà.
Toute mon enfance, en tout
voilà.
cas.
Voilà, et toute la pop culture. Donc son influence est tellement importante à Hollywood qu'il a reçu plus de nominations aux Oscars que n'importe qui dans l'histoire. Sauf Walt Disney. Donc c'est quand même quelqu'un qui a marqué toute une génération.
Plusieurs générations.
Bah oui, toute une génération et qui est bien ancrée maintenant dans la culture populaire. Alors,
Les mélodies, elles ont beaucoup de succès. Pourquoi ? Parce qu'elles sont d'abord interprétées par un grand orchestre, c'est l'Orchestre Symphonique de Londres. Et Rosen Milanov, là, de l'Orchestre Symphonique de Columbus, lui dit que finalement, ce qu'on entend dans la musique de Star Wars, c'est le romantisme fantastique des instruments à cordes, l'inventivité des bois et le néo-romantisme qui manquait à l'époque, puisque quand le premier Star Wars est sorti, la musique classique, elle était devenue assez sérieuse, assez complexe. Voilà, c'était de la musique contemporaine. Là, il y a un retour de la musique classique, inspirée de Richard Wagner en particulier. Voilà, qui vient accompagner la narration des films, en fait. Donc George Lucas, qui est rigolo au départ, le créateur de Star Wars, lui, il ne voulait pas de musique. Il voulait pas mettre de musique. Voilà, un peu comme dans 2001, il voulait utiliser de temps en temps des musiques déjà préexistantes, ou alors utiliser des musiques expérimentales comme dans son premier film, la THX 1138, ouais. Donc une musique dissonante et tout ça. Et puis finalement, il s'est dit qu'une forme orchestrale, ce serait peut-être plus intéressant parce que ça coûterait moins cher. Ouais. C'était ouais. ça l'idée au départ.
Aussi.
Parce qu'au départ, hein, comme tu disais, Adrien, c'est une série B à la base, Star Wars.
Ouais.
Et donc le succès de Star Wars, c'est une surprise. Donc voilà, il a demandé au compositeur d'écrire en imaginant en fait qu'il s'agissait de films muets et que la musique servirait de dialogue. C'est pour ça que c'est très dynamique, la musique de Star Wars. Alors pour les critiques de cinéma, comme Thierry Jousse, le grand orchestre, là, qui a été dominant dans les années 30, 40, 50, il avait quasiment disparu. Il y avait une période dans les années 70 où dans les musiques de films, on avait du jazz, de la pop, voilà, des musiques plus modernes, on va dire. Et puis ça revient avec d'abord Les Dents de la Mer, quand même, il faut le signaler, juste avant Star Wars. Hein, Les Dents de la Mer, c'est 75, ouais. Star Wars, c'est 77. Et puis ce changement perdure encore aujourd'hui. Alors en particulier dans l'épisode où on voit les Ewoks, ouais. Je sais pas si vous vous souvenez,
le retour du Jedi.
Ouais, le retour du Jedi. Mmh. Là il y a beaucoup de musique et en particulier le thème des Ewoks. Je sais pas si vous vous souvenez de ce thème qui est assez rigolo. Et donc voilà, donc au fur et à mesure de la saga, la musique va prendre de plus en plus d'ampleur. Alors bien sûr, on connaît le générique de début, le générique de fin, la musique de la marche de l'empereur, en fait la marche de l'empire, parce que la marche de l'empereur c'est un film des pingouins. Voilà. En tout cas voilà, et dans chaque épisode, on a un thème supplémentaire. Donc la musique, elle joue un rôle essentiel, presque plus aussi important, je dirais même, que les autres éléments du film. Tu parlais des décors, des personnages, la musique, elle est essentielle.
La musique est un personnage presque, ouais, parce que contrairement à d'autres groupes, il y a des groupes qui font des musiques de films, hein, comme Two Steps From Hell, qui sont très connus pour faire plein de
les Goblins.
De films. Ouais, voilà. Et ben ils font des morceaux par action, c'est-à-dire qu'il y a un morceau qui correspond à une action. Alors que là, la musique finalement est cool tout le film.
C'est ça.
Et elle fait vraiment partie du film.
Et je pense que le thème, même des gens qui n'ont pas vu les films, dès qu'on commence à mettre les 3, 4, 5 premières notes.
Ah oui, le générique.
Directement.
On voit défiler le texte. Ouais. Il y a une vidéo qui est circulée en 2015 sur laquelle je suis retombé. C'était des parents qui avaient mis qui avaient un babyphone, qui avait un micro. Et leur bébé était. C'était un bébé de quoi, 6 mois, quoi, qui était dans sa chambre. Et ils l'ont entendu au babyphone fredonner la marche impériale.
C'est devenu mythique, hein, quand même. Ouais. Ça rentre dans les mœurs. Alors, juste pour finir, hein, juste pour vous dire en conclusion, qu'en fait, pour la dernière saga, la troisième trilogie, John Williams, il a fait un travail monumental, alors qu'il est vieux et assez malade. Il a composé plus de 2 heures de musique.
Ah oui.
Voilà. Rien que pour la dernière trilogie.
Ah, rien que pour ça.
Respect, John Williams.
Respect.
C'est ça.
Mais on retrouve un peu l'importance de la musique dans le film aussi, la trilogie Seigneur des Anneaux.
Ah,
c'est vrai.
C'est un peu le même genre. On a quand même des thèmes qui reviennent aussi en fonction des personnages.
Ça a été travaillé de la même manière. Ouais.
Ouais. Il y a beaucoup de points communs entre Star Wars et le Seigneur des Anneaux.
Je sais qu'Anaïs va bientôt peut-être aller voir un film E.T. avec une version
orchestrale.
Mais effectivement, il commence à y avoir aussi des versions rediffusion du film avec un orchestre philharmonique. Ça doit être juste exceptionnel.
Je suis en quête de billets pour ce genre de truc.
Oui, alors il y a ça avec la musique de John Williams, mais avec d'autres compositeurs, ça existe aussi, les ciné-concerts. Ouais. C'est vachement bien.
Ouais, c'est super bien. Bon, histoire de bien vous mettre la musique dans la tête, je vous propose d'écouter Jimmy Fallon, le présentateur américain, avec le cast de la nouvelle trilogie. Voilà, avec le casque de la nouvelle trilogie. Cast de la nouvelle trilogie, je vais y arriver.
C'est une chanson pour tous les papas.
Exactement. Donc il y a tous les acteurs qui sont en train de faire les vidéos là, sur la vidéo. C'est sympa. Et là, ça, c'est la voix de Kylo Ren. Adam Driver.
Excellent acteur.
Ah, Alors maintenant que vous l'avez bien dans la tête, je vous propose une petite intermède musicale, mais un vrai ce coup-ci. On va voir que Star Wars, ça aussi, comme ça diffuse en pop culture, ça a aussi inspiré des métalleux. Alors on va voir ce que ça peut donner Star Wars en métal sur Radio G.
Ah, ça aime bien.
101.5, la radio qui fait le point.
C'était Star Wars Metal sur Radio G.
Metal.
Alors on a un petit message de Seb.
Non, alors c'est surtout un message d'un auditeur, c'est Yann qui nous dit dans Star Wars, donc John Williams s'inspire de Gustav Holst et les planètes, en particulier Mars. Ouais. Et on peut aussi signaler que l'émission générique sur Radio G de dimanche prochain sera aussi sur Star Wars, voilà. C'est dit.
Et oui, donc on vous donne rendez-vous toujours sur Radio G. Radio G, la radio de notre galaxie. je vous propose rapidement c'est pas un quiz au niveau de ce que nous propose Oliver Quiz d'habitude hein, mais deux trois petites questions suivies d'un petit le saviez-vous. On va travailler un petit peu ça, donc chers auditeurs, à vos commentaires sur notre page Facebook, sur le Messenger de la page ou simplement par SMS
3615
par Minitel. Attention, c'est parti.
Yes. Génial, ça.
Alors, première petite question. Combien d'années séparent les événements du retour du Jedi de ceux du réveil de la Force?
Oh là là là.
30, 40 ou 50?
Ouais, 40.
Alors, qui dit qui dit mieux, qui dit moins?
30.
Arthur, 30?
Ouais.
Attention.
Ouais, je suis d'accord avec Arthur, moi.
Ouais.
Moi, je dirais 40. Moi.
Eh bien, c'est 30 ans. Bravo, Arthur.
Ah, One point.
Quel personnage de la trilogie originale n'apparaît pas dans les épisodes 7 à 9? Est-ce que c'est Lando Calrissian? Est-ce que c'est l'amiral Akbar? Est-ce que c'est Boba Fett? Ouais, qui n'apparaît pas dans la nouvelle trilogie?
Je pense que c'est Boba Fett.
Boba Fett,
moi, je dirais l'amiral Akbar.
It's a trap.
I don't know.
C'était Boba Fett, oui.
Alors, effectivement, l'amiral Akbar, on le voit mourir dans les derniers Jedi, sur la passerelle, au moment où Leia fait son Superman.
Ah, oui, c'est vrai.
Et donc, bien joué, Arthur, bien joué, Olivier. C'est effectivement Boba Fett. Hein, bravo à vous. Question beaucoup plus pointue, attention.
Non, là. Dis donc.
Quel est le seul acteur de la trilogie à avoir remporté un Oscar? Benicio del Toro, Laura Dern, Oscar Isaac qui joue Poe Dameron, Laura Dern qui joue l'amiral ami de la générale Leia Organa dans le 8, et Benicio del Toro qui joue sur la planète Casino.
Parce que moi je pensais que c'est John Williams qui a obtenu plein d'Oscars.
J'ai envie de dire Benicio del Toro. C'est quoi le premier choix déjà?
Benicio del Toro, deuxième choix Laura Dern, troisième choix Oscar Isaac.
Oscar Isaac.
Et Poe Dameron? Malheureusement, c'est Benicio del Toro.
Je reviens deux points.
Pourtant, c'est pas vraiment marquant comme rôle. Enfin, moi je me souviens pas.
C'est pas pour ça qu'il l'a eu.
Ah oui, d'accord. C'est pas pour Star Wars.
Non. Alors, qui tue Snoke, le chef suprême du premier ordre à la fin de l'épisode 8, Les Derniers Jedi? Poe Dameron, Kylo Ren, Odile de Rey.
Forcément, c'est Odile.
Odile.
Eh ben non, Kylo Ren.
C'est Kylo Ren.
Pardon, j'ai pas même pas lucé le temps. Ensuite, beaucoup plus compliqué. Là, on va travailler votre mémoire auditive. Quel est le matricule de Finn avant qu'il ne déserte le premier ordre? FN 2187, FI 8721, IN7218.
Non, je sais, c'est FN.
C'est FN.
Ça m'avait choqué, moi. Ouais.
C'est FN.
Alors FN?
Ouais, moi aussi.
FN 2187.
Ouais.
Bien joué. Bien joué. Vous êtes très bon.
C'est des Américains, bon, c'est pas grave.
Et donc, on a gagné une saison complète de dessin animé.
Exactement,
de BD.
En location. Attention, on enchaîne. Alors, on va partir sur des petits de saviez-vous, puisque Star Wars, c'est une histoire de famille, c'est une histoire de maître et d'apprenti, et c'est également un certain nombre d'anecdotes de films qui ont pu sortir. Alors, par exemple, est-ce que vous saviez que Chewbacca parlait anglais sur le set de Star Wars pour que le dialogue ait réel entre le personnage et Han Solo?
Non,
ce qui est très très fort, c'est que Peter Mayhem, paix à son âme, parlait avec un accent du sud de Londres absolument à couper au couteau. Donc vous imaginez Chewbacca parler en cockney.
C'est excellent.
Génial. Autre petit point. Alors tout ça, notez-les bien, chers auditeurs, pour briller aux soirées de Noël ou au Nouvel An avec vos amis, il faut noter. Premier point, Yoda a failli être joué par un singe. D'après le livre, donc The Making of Star Wars, George Lucas avait prévu à la base que Yoda soit joué par un petit singe.
J'aime bien ces infos insolites.
Ouais.
Salut Étienne.
Le mot Ewok, il a jamais été utilisé dans la trilogie originale. En fait, on sait que les Ewoks s'appellent les Ewoks parce que c'était mentionné dans le script et dans le générique de fin. Sinon, on n'avait aucune info là-dessus. Vous saviez peut-être aussi que l'acteur qui joue Boba Fett dans la trilogie originale remplace un officier impérial dans les dernières minutes du film. Donc en fait, c'est le seul moment où on voit son visage dans le Retour du Jedi. Le Retour du Jedi, d'ailleurs, a failli avoir une fin très différente de celle qu'on connaît. Parce que lors d'une réunion sur le Seigneur du film, George Lucas a caressé l'idée qu'après que Luke ait enlevé le casque de Vador, il le mette en déclarant « Now I am Vader, now maintenant je suis Vader » et qu'il sombre du côté obscur.
Ouais, ça devait se terminer comme ça. Et ça devait s'appeler la vengeance du Jedi.
C'est ça, et pas la revanche. Parce que finalement, le Retour du Jedi, c'est pas Luke, le retour dont on parle. C'est Anakin qui rebascule du côté lumineux. L'une des répliques est devenue un gag récurrent pour les 6 films. Est-ce que vous pourriez me dire laquelle c'est?
On l'entend dans tous les films.
Le
cri de William.
Yes, le cri de William. Une autre que dit souvent Yann Solo.
Je m'attendais pas à ça.
Bad feeling,
voilà,
bad death.
C'est ça.
J'ai un mauvais
pressentiment. Exactement.
Voilà. Alors quelque chose dont on va voir pour ceux qui regardent la nouvelle série The Mandalorian, dont on parlera probablement dans une autre émission. Yoda n'a pas d'espèce officielle.
Non.
Ah bon,
on ne sait pas le nom de son espèce. On ne sait pas d'où il vient. Et alors selon les films, d'ailleurs toujours sur Yoda, il n'a pas le même nombre d'orteils. Vous pourrez vous amuser à regarder. Dans La Menace Fantôme, Yoda a 3 orteils. Dans L'Empire Contre-Attaque et dans Le Retour du Jedi et dans La Revanche des Sith, il en a 4.
Ça pousse.
Ça pousse.
Les voies de la force sont impénétrables.
Il est vieux donc ça pousse.
Et oui. Alors, pour les plus cinéphiles d'entre vous, Star Wars et 2001 l'Odyssée de l'espace partagent quasiment la même équipe de production, puisque George Lucas admirait Stanley Kubrick et donc il a décidé de le faire. Voilà pour les petites news. Comme c'est bientôt Noël, je vous propose, chers auditeurs,
d'écouter Maria Carré.
Exactement, on va écouter Maria Carré. Vous allez voir qu'elle était au top de sa forme ce soir-là. En tout cas, moi je te remercie, Anaïs.
Merci à toi.
Merci Seb.
De rien, merci Adrien, à bientôt.
Merci Arthur.
Merci beaucoup.
Merci Oliver.
Merci à toi.
Et chers auditeurs, on se retrouve très probablement d'ici là. May the force be with you all. Et bon film pour ceux qui iront voir Star Wars.
Et manger des cookies.
Ouais. Exactement. Allez, bonne soirée à tous.
Salut.
Salut.
Bonne soirée.
Salut.
Salut.
Yoda's on a Pepsi bottle and Princess Leia on Coke. But don't you get hooked up. Save the chinchilla monkeys and throw away that burger. Cause it's the little decisions that count. This is Roger Fogarty and you're listening to Creature Shock Radio FM.
FM.
And it's a protege, eh? Yeah. Chronics are where you stay, eh?
Yeah. Okay. Oh, yeah. Who knows? Who knows? Who knows? Who knows? I just go where the trade wind blows, sending love to my friends and foes, and I suppose. Sun.
sunshine, rivers and trees. Green leaves.
When me see Jah, me see a way. Drastically straight from hypocrisy, I say, hey. Every man to them own a philosophy. I live the proper way and then me read a chapter daily. Man they in a city hungry and no eat. And food they down a country, just a drop off of the tree then. You see say poverty no real then. Is what the reason revealing.
Who knows, who knows, who knows, who knows.
Radio G 101.5 FM.